Bonjour à toutes et à tous. Les cafés et restaurants peuvent rouvrir dès ce matin en Île-de-France. Feu vert donné hier par Emmanuel Macron qui achève plus tôt que prévu donc le déconfinement. Tous les élèves pourront par ailleurs revenir dans les écoles et les collèges dès lundi prochain. Mais avec quel protocole sanitaire? C'est la question que posent plusieurs syndicats d'enseignants.
Emmanuel Macron, heureux de cette première victoire contre le virus, il veut tirer toutes les leçons de la crise sanitaire. L'opposition, elle, critique un exercice d'autosatisfaction, vous l'entendrez.
C'est aujourd'hui que débute la campagne officielle pour le second tour des élections municipales. Nous irons à Lyon dans ce journal où les écologistes pourraient l'emporter. Leurs adversaires dénoncent un péril vert. Et puis la Commission européenne l'avait souhaité, les États européens se mettent en ordre de marche pour ouvrir leurs frontières intérieures à partir d'aujourd'hui.
Et puis la question du jour, Catherine, dans une dizaine de minutes, la pandémie a-t-elle modifié nos pratiques alimentaires? On posera la question à Éric Birloise, il est ingénieur agronome et sociologue de l'agriculture.
C'était sa quatrième allocution depuis le début de la crise du coronavirus. Emmanuel Macron a pris la parole hier soir à 20h, une vingtaine de minutes pour accélérer le déconfinement et tirer les leçons de la crise, Rosalie Lafarge.
D'entrée de jeu, le président le confirme, toute la France métropolitaine repasse en zone verte dès aujourd'hui.
Nous allons pouvoir tourner la page du premier acte, en quelque sorte, de la crise que nous venons de traverser.
Les cafés et restaurants d'Île-de-France peuvent donc rouvrir sans attendre le 22 juin. Les visites dans les maisons de retraite et les EHPAD doivent redevenir possibles partout. Encore un peu de patience pour les crèches, écoles et collèges qui rouvriront lundi prochain, mais de manière obligatoire et selon les règles de présence normales, précise le président.
Nous allons donc pouvoir retrouver le plaisir d'être ensemble, de reprendre pleinement le travail, mais aussi de nous divertir, de nous cultiver. En somme, nous allons retrouver pleinement la France.
Attention, mais tout de même en garde le chef de l'État. Ce vent de liberté, ça ne veut pas dire qu'on en a fini avec la Covid-19. Les rassemblements seront toujours très encadrés, les gestes barrières restent de mise. Mais quand même, Emmanuel Macron se félicite de ce qu'il appelle une première victoire contre le virus. Et cette victoire, pour le président, elle n'est pas due au hasard.
Si nous pouvons rouvrir le pays, c'est parce qu'à chaque étape de l'épidémie, chacun a pris sa part. Nous n'avons pas à rougir de notre bilan. Des dizaines de milliers de vies ont été sauvées par nos choix, par nos actions.
Le président se livre à un autosatisfecit sur les plans sanitaires et économiques, ce qui fait déjà bondir l'opposition, mais sans jamais prononcer le mot masque, il n'écarte pas non plus totalement les failles et les fragilités mises en lumière par cette crise. Emmanuel Macron pointe notre dépendance à d'autres continents, nos lourdeurs d'organisation et nos inégalités sociales, et il s'engage à en tirer toutes les leçons.
Rosalie Lafarge en parlait, l'opposition n'a pas vraiment goûté l'allocution hier soir d'Emmanuel Macron. Il oublie que notre pays va accuser une mortalité par million d'habitants très élevée et l'une des récessions économiques les plus violentes au monde, a réagi le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau. Exercice d'autosatisfaction, dénonce de son côté le député insoumis Éric Coquerel.
On a l'impression qu'il a vaincu à lui seul la crise épidémique. Bon, je rappelle que notre pays a été très mal en point pour l'aborder du fait de en partie de la politique de ce gouvernement d'un point de vue de la santé, sur lequel d'ailleurs il a peu dit de choses sur le Ségur qui se déroule actuellement, sur le manque de tests, sur le manque de matériel respiratoire, sur le manque de lits, sur le manque de masques, etc. Pour une bonne partie, si l'hôpital s'est retrouvé en situation, c'est du fait de leur incurie. Donc j'ai trouvé effectivement très révisionniste sur ce qui s'est passé, y compris quand il se permet de dire qu'il a réorienté l'industrie. J'ai pas vu trace de cette réorientation que, pour notre part, nous avons largement réclamé et qui ne vient toujours pas.
Éric Coquerel, député de la France Insoumise, il répondait à Karine Bécard. Satisfecit à présent des syndicats d'enseignants sur la réouverture totale des classes en école et au collège qui doivent se préparer dès lundi prochain à accueillir tous les élèves de manière obligatoire. C'est ce qu'a expliqué Emmanuel Macron hier soir. Même s'il ne restera que peu de jours d'école, ils sont importants, estime Frédéric Roy, secrétaire général du SNES-FSU, syndicat majoritaire dans le second degré.
C'est une bonne nouvelle parce qu'on n'avait pas compris pourquoi l'école à un moment était devenue facultative pour certains jeunes. Nous avions plaidé pour une réouverture des établissements pour essentiellement pouvoir faire le point avec les élèves de la phase confinement et pour préparer au mieux la rentrée. Et là, moi, ce qui m'inquiète, c'est le retard que le ministre de l'Éducation prend dans cette préparation de rentrée parce que nous ne serons pas dans une rentrée normale. Il faut travailler les programmes, il faut travailler les groupes pour permettre justement de rattraper attraper les décrocheurs. Toutes ces questions-là sont des questions urgentes. Donc ces quelques jours vont peut-être quand même permettre, avec certains élèves, justement, de faire le point sur ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait pendant la période du confinement.
Frédéric Relais, secrétaire général du SNES FSU. De son côté, Francette Popineau, à la tête du SNUIPP FSU, premier syndicat du primaire, estime, elle, que beaucoup de questions restent sans réponse quant au protocole sanitaire. Qu'en est-il de la distanciation physique, de l'obligation de se laver de manière répétée les mains? Francette Popineau se demande encore si tout cela a bien été envisagé par une autorité médicale. Quelques heures après l'allocution d'Emmanuel Macron, des gyrophares allumés et des sirènes hurlantes, quelques centaines de policiers se sont rassemblés hier soir à Paris sur l'esplanade du Trocadéro, pas convaincus visiblement par les propos du chef de l'État. Emmanuel Macron avait rappelé que sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité ni liberté et que cet ordre, ce sont les policiers et gendarmes sur notre sol qui l'assurent. Le syndicat Alliance demande à être reçu par le président de la République.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Emmanuel Macron a indiqué que le risque était de penser que l'épidémie était derrière nous. Cependant, il a indiqué que le second tour des élections municipales serait bien organisé le 28 juin prochain.
Et c'est aujourd'hui que débute la campagne officielle pour ce scrutin. 4900 communes concernées par ce second tour, puisque près de 30 000 communes ont déjà élu leur maire le 15 mars dernier. Compte tenu de l'épidémie de coronavirus qui n'a pas encore été... Donc pas complètement disparu. La campagne officielle qui débute aujourd'hui s'annonce très particulière. Le porte-à-porte est proscrit et les outils numériques sont privilégiés. Et si les Verts l'emportaient à Lyon pour ce second tour? Après deux décennies de règne, Gérard Collomb a fait alliance avec la droite pour faire barrage aux écologistes favoris de cette élection à la mairie et à la métropole. Une alliance qui a d'ailleurs valu à Gérard Collomb le retrait de l'investiture LREM dans la deuxième agglomération de France. Les Verts, eux, veulent réduire la part de l'automobile en proposant plus d'alternatives en transport en commun et en vélo, mais aussi ils veulent mettre en place un marché d'intérêt métropolitain pour relocaliser l'alimentaire et favoriser les entreprises vertueuses en termes d'environnement. Leurs adversaires évoquent un péril vert, Mathilde Imberti.
Comment apporter une touche verte à une agglomération d'1,4 million d'habitants en pleine expansion? Un quartier symbole, le quartier d'affaires de la Part-Dieu. Des tours, des grues, du béton. Le modèle ne convient plus, selon Bruno Bernard, peut-être futur président vert de la métropole, chef d'entreprise dans le bâtiment.
Alors, on arrive à saturation, la Part-Dieu, où on construit en effet encore des tours. Nous, sur ce quartier-là, on va arrêter cette construction pour avoir plusieurs pôles sur la métropole et sur Lyon, de bureaux et d'affaires. Qu'il faut passer de cette compétitivité d'une métropole toujours plus attractive à autre chose.
Cette autre chose, ce chiffre, la métropole de Lyon est un géant à 3 milliards d'euros de budget, 700 millions de commandes publiques, de quoi peser sur les entreprises.
Nous, on souhaite travailler avec les entreprises pour créer un schéma d'achat responsable qui permettra d'intégrer des clauses environnementales, des clauses sociales, pour avantager nos entreprises locales qui sont vertueuses. Et puis, au bout de 2-3 ans, quand l'équilibre sera fait, pour leur imposer, en effet là, des nouvelles règles pour travailler avec nous.
Cette approche crispe. On a vu naître ainsi un mystérieux collectif d'entrepreneurs qui s'est dressé contre les Verts. Propos alarmistes repris à droite par le candidat de l'Alliance Collomb Les Républicains, François-Noël Buffet.
Y a-t-il une inquiétude? La réponse est oui. Ils sont prioritairement pour une écologie de décroissance. Nous sommes pour une écologie positive. Ils sont en désaccord sur la construction de logements, alors même que le territoire est très attractif et que nous avons besoin de logements. Et nous sommes en désaccord total avec les sujets de sécurité. Ce sont des différences de fond.
Un débat clivé et au centre, un homme qui se présente comme la solution, David Kimmelfeld, marcheur dissident, actuel président de la métropole.
Je ne crois pas que je suis la troisième voix, je suis surtout la première voix parce que je suis le président sortant, celui qui a géré la crise. Par exemple, les Verts ont été totalement absents de cette gestion de la crise. On ne les a pas vus, on ne les a pas entendus. Et bien évidemment, de l'autre côté, il y a un Gérard Collomb qui vient de passer des accords totalement incroyables avec les Républicains. Il faut quelqu'un qui ait l'expérience et qui puisse rassembler. Je crois que je suis celui-là.
Tous contre les Verts qui poursuivent leur campagne en rencontrant des patrons, bien conscients que les interrogations économiques sont revenues au premier plan dans la deuxième agglomération de France.
Mathilde Imberti à Lyon pour France Culture. Je le disais en titre, la Commission européenne l'avait souhaité. Les États européens se mettent en ordre de marche à partir d'aujourd'hui pour rouvrir leurs frontières intérieures et le trafic aérien reprend, mais très lentement, Louise Baudet.
Beauvais depuis hier, Orly le 26 juin. En France comme en Europe, l'heure est à la réouverture des aéroports. Mais la reprise est très progressive. Le secteur annonce pour ce lundi 15 à 20% du trafic habituel dans le ciel européen. Et si Air France s'apprête à desservir l'essentiel de ses destinations cet été, il y aura beaucoup moins de rotations, pas plus de 40% de son programme de vol habituel au meilleur du mois d'août. Pour le moins optimiste, Alexandre de Juniac, le patron de l'Association internationale du transport aérien, annonce un retour à la normale dès 2022, mais avec un trafic passager amputé du tiers et des pertes approchant les 75 milliards d'euros, le secteur fait face à la pire crise de son histoire. Plusieurs États ont mis en œuvre des plans de soutien, 7 milliards d'euros pour Air France par exemple, mais la réouverture des frontières en ordre dispersé complique la reprise d'activité, à l'image de la quarantaine britannique attaquée en justice par 3 compagnies aériennes. Enfin, il y a les règles sanitaires qui s'imposent aux passagers, masque obligatoire, contrôle des températures et délai rallongé avant d'embarquer, sachant que le secteur est divisé sur le fait de laisser ou non des sièges vacants entre les passagers.
Et en Italie, cela fait déjà près de 2 semaines que les frontières ont rouvert et l'on redouble d'inventivité pour attirer les touristes. Exemple à Florence, en Toscane, où un drôle de collier permet aux visiteurs de maintenir les distances. Le reportage de Bruce de Galzin.
Ils sont étrangers, italiens, florentins. Dans le Duomo de Florence, ils portent tous un appareil qui se met à vibrer et passe du vert au rouge.
Nous avons mis un cordon pour le porter autour du cou.
Massimo Cortopassi est le responsable technologie des monuments du Duomo.
S'il y a quelqu'un à côté de moi, à moins d'1,80 m, le dispositif émet des vibrations de plus en plus fortes.
Et les visiteurs sont censés s'éloigner. Cela sert aussi à rassurer tout le monde, estime Caroline, une touriste française venue à Florence en famille.
Ils ont vraiment besoin des touristes, donc c'est un moyen de nous dire tout va bien, venez, on est prêt pour vous accueillir avec toutes les sécurités possibles, venez à nous.
Le Duomo est privé, vit de la billetterie et a déjà perdu 20 millions d'euros. Alors pour attirer les visiteurs, les terrasses de la cathédrale sont exceptionnellement accessibles tout l'été. Ambra Nepi nous ouvre les portes.
C'est sans doute le lieu le plus beau et le plus spectaculaire du Duomo de Florence. Nous sommes ici sur les promenades des deux côtés de la façade de la cathédrale qui servait à l'origine aux ouvriers pour faire les travaux de manutention.
Et dans les prochains mois, le Duomo proposera des visites virtuelles, mais en direct et interactives avec un guide.
Bruce de Galzin en Italie pour France Culture. Et alors que l'Europe se déconfine de manière plus accélérée à partir d'aujourd'hui, la Chine, elle, annonce un rebond des nouveaux cas de Covid-19, faisant craindre une seconde vague de l'épidémie au moment donc où plusieurs pays d'Europe ont, eux, rouvert leurs frontières. Le temps de ce lundi 15 juin, encore variable. Le Puy-de-Dôme, où l'Allier est en crue, reste en vigilance orange aujourd'hui. Au meilleur de la journée, il fera entre 17 et 21 degrés près des côtes de la Manche et de l'Atlantique. Comptez 23 à 28 près de la Méditerranée et 19 à 24 degrés partout ailleurs, Guillaume Erner.